Aujourd'hui, on fait une analyse bien en profondeur de nos propres dossiers d'audit, en fait. On va décortiquer des cas récents qu'on a vus sur le terrain.
Ouais, et aussi des données remontées par des acteurs comme SR Analytics ou Stipe. L'idée, c'est vraiment de comprendre un phénomène qui est invisible, mais totalement dévastateur pour la rentabilité.
C'est ça, la disparition vraiment silencieuse des données de conversion e-commerce. Et c'est un vrai travail d'investigation qu'on fait là.
Ah bah complètement. Ce que je vois en audit chez pratiquement chaque nouveau client, systématiquement, c'est une perte d'environ 20 à 40% des données d'achat.
20 à 40%? C'est énorme.
Et ça, c'est avec une configuration classique, hein, le tracking client side habituel.
Ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est pas tant le chiffre, c'est l'absence totale de panique dans les équipes marketing.
Grave. Personne ne se rend compte de rien.
Bah oui, parce que y a pas d'alerte rouge, en fait. Quand on ouvre l'interface d'analyse classique, tout a l'air de fonctionner normalement.
C'est ça, les graphiques montent, descendent, le trafic rentre.
Sauf que les fondations sont pourries. J'ai vu passer des chiffres de SR Analytics récemment, et ça montre que 73% des configurations perdent de la donnée en silence.
73%? On navigue complètement à vue, du coup.
Exactement. Et prendre des décisions d'investissement publicitaire sur une image aussi tronquée?
Bah, c'est suicidaire pour un e-commerçant. Je veux dire, comment calculer un retour sur investissement publicitaire, le fameux ROAS, ou même une marge nette, si on est aveugle sur presque la moitié des ventes?
On dirige une entreprise avec un tableau de bord dont les compteurs mentent, en gros.
Ouais, c'est exactement ça.
Mais alors, comment on est arrivé là? Le navigateur web de l'acheteur final, c'est devenu un environnement si hostile que ça?
Hostile, c'est le mot faible. C'est un véritable champ de mine. Et le premier responsable, ben, c'est l'utilisateur lui-même.
Est-ce qu'il se comprend en même temps?
Totalement. Les données de TrackBI pour 2024 estiment qu'entre 30 et 40% des internautes utilisent un bloqueur de publicité.
Attends, concrètement, ça veut dire que près d'un acheteur sur trois est totalement invisible pour le pixel Meta ou la balise Google Ads?
C'est ça. Ils n'existent pas pour l'algorithme.
C'est comme gérer une grande boutique physique où 30% des clients passeraient en caisse avec une cape d'invisibilité, quoi. Le tiroir caisse sonne, l'argent rentre.
Mais le gérant est incapable de savoir par quel rayon ils sont passés.
Voilà, ou s'ils ont été conseillés par un vendeur.
Et le pire, c'est que ceux qui n'ont pas de bloqueur de publicité tombent souvent sous le coup des restrictions des navigateurs eux-mêmes.
Ah oui, le fameux coup de grâce d'Apple.
Apple a frappé très très fort avec Safari ITP. C'est un mécanisme de confidentialité natif qui bride les cookies à une durée de vie de 7 jours maximum.
Attends, détaille un peu la mécanique ici, parce que je sais que ça a un impact direct sur les cycles d'achat un peu longs.
Ouais, bien sûr. Imaginons un acheteur qui découvre une marque de chaussures via une publicité Meta sur son iPhone un lundi matin.
Ok, classique.
Il clique, il regarde, mais il est dans le métro, donc il n'achète pas tout de suite. Mais le processus de réflexion s'enclenche.
Il garde ça dans un coin de sa tête.
Voilà, il revient sur le site 10 jours plus tard, le jeudi suivant, et là, il achète.
Et techniquement, il se casse quoi à ce moment-là?
Bah, le délai de 7 jours imposé par Safari est dépassé. Le navigateur a physiquement supprimé le cookie de sa mémoire, le lien est rompu.
Donc l'outil d'analyse va bien enregistrer un achat le jeudi, mais il sera incapable de faire le lien avec la publicité du lundi.
C'est ça, il va classer ça comme du trafic direct.
Donc la campagne publicitaire qui a généré l'intérêt ne reçoit aucun crédit. C'est terrible pour l'analyse.
Ah bah, ça fausse tout.
J'entends tout le temps des responsables d'acquisition dire « Nos campagnes Meta génèrent 40% du chiffre d'affaires, c'est écrit dans le rapport ».
Ouais, je l'entends aussi. Mais avec ces restrictions, ce rapport est une illusion. Peut-être que Meta génère 60% de la réalité, en fait.
Ou peut-être qu'on surévalue complètement ce canal au détriment du référencement naturel, on sait pas.
Exactement. Et là, on n'a même pas encore abordé le comportement face aux bannières de consentement.
Ah, le fameux bouton « Accepter les cookies ». J'ai des chiffres de Cereza en tête là-dessus.
Vas-y.
68,9% des utilisateurs ignorent ou ferment purement et simplement la bannière sans interagir.
Ils balaient le truc et continuent leur vie, quoi.
C'est ça. Et le problème, c'est que techniquement, sans choix explicite, le système traite par défaut cette absence de réponse comme un refus.
Et paf, les interactions s'évaporent de l'outil de mesure.
Et là où ça devient hyper critique, c'est que c'est plus seulement une question d'analyse, c'est une question de diffusion.
Ouais, les sanctions algorithmiques.
Ne pas être en règle avec les dernières normes, comme le Consent Mode V2, qui est obligatoire depuis mi-2025 en Europe, ça déclenche des trucs lourds.
Exactement. Google veut pas prendre le risque de grosses amendes européennes. Donc, si le site envoie pas les bons signaux de consentement...
Google bride techniquement la diffusion des campagnes.
C'est la double peine. Perte de données d'un côté et perte de visibilité publicitaire de l'autre.
Bon, le constat, il est assez clair, là. Le navigateur du client bloque, efface ou refuse la donnée.
Il faut fuir cet environnement
C'est ça. Si on peut plus compter sur cet environnement-là, où est-ce qu'on est censé faire nos calculs et attribuer nos ventes?
Bah, la seule porte de sortie, c'est de changer d'architecture, en fait.
Ok, on fait comment?
Il faut sortir la collecte de données du navigateur, qui est un territoire ennemi, on l'a vu, et la rapatrier sur un territoire qu'on contrôle à 100%, le serveur de l'entreprise.
Ce qu'on appelle le server side.
Voilà.
Mais concrètement, pour quelqu'un qui n'a pas le nez dans le code tous les jours, on met ça en place comment?
En gros, on déploie un conteneur Google Tag Manager côté serveur et on l'héberge sur un sous-domaine qui appartient à la boutique.
Ok.
Au lieu que le navigateur de l'acheteur essaie de discuter directement avec les serveurs de Facebook ou Google, ce que les bloqueurs repèrent direct...
Ouais, ils les bloquent immédiatement.
C'est ça. Eh bien là, le navigateur discute uniquement avec le serveur de la boutique.
Et comme c'est le domaine légitime de la boutique, les adblockers laissent passer.
Exactement. Et ensuite, c'est ce serveur central, bien à l'abri, qui se charge de distribuer l'information aux différentes plateformes publicitaires.
On reprend le contrôle total de ce qui sort. Sur le papier, c'est juste imparable.
Ouais, mais la mise en œuvre sur le terrain, c'est une autre paire de manches.
Ah ça! Selon le CMS qu'utilise le e-commerçant, le niveau de difficulté fait vraiment le grand écart.
C'est sûr. Sur Shopify, c'est devenu presque un standard aujourd'hui.
Ouais, on utilise des solutions intermédiaires comme Elevar, qui formatent parfaitement la data layer. L'ajout au panier, le début du paiement, l'achat...
Tout est standardisé et envoyé proprement. C'est le rêve.
Mais dans la réalité du marché, bah, y a énormément de boutiques sur WooCommerce. Et là, la mécanique est beaucoup, beaucoup plus fragile.
Oh que oui. Sur WooCommerce, on doit souvent coder la couche de données à la main ou empiler des extensions dans tous les sens.
Et attends, je t'arrête sur un point critique que je vois hyper souvent en audit, l'hébergement.
Ah, les serveurs qui lâchent.
C'est ça. Déplacer la charge vers le serveur, ça demande de la puissance de calcul. Et beaucoup de boutiques ont des serveurs sous-dimensionnés.
Si le serveur de la boutique est lent et fait des time-out.
Bah oui, s'il met trop de temps à répondre quand il essaie d'envoyer l'information au serveur de tracking, la donnée est perdue avant même d'arriver.
C'est dommage.
Essayer de faire du server-side sur un hébergement bas de gamme, c'est comme faire passer un train de marchandises à grande vitesse sur un pont en bois pourri.
Le système lâche et la donnée tombe à l'eau.
Voilà, l'infrastructure technique doit tenir la route, c'est vraiment le prérequis absolu.
Mais si le pont est solide, les bénéfices sont juste massifs. Surtout quand on couple cette architecture avec les conversions améliorées.
Les fameuses « enhanced conversions », c'est un terme qu'on entend partout, ça. Expliquons un peu la mécanique.
Ouais, comment ça permet de récupérer des ventes quand un acheteur a refusé les cookies ou que les cookies ont expiré?
C'est ça.
En gros, au lieu de dépendre d'un cookie fragile dans le navigateur, on va utiliser une donnée propriétaire solide.
L'email, souvent.
Voilà. Quand un client achète, il donne son email. Le système va prendre cet email, le hacher.
Donc le transformer via un algorithme en une suite de lettres et de chiffres indéchiffrables pour la sécurité.
Exactement. Et il envoie ça directement de serveur à serveur chez Google ou Meta.
Et que fait Google avec cette suite indéchiffrable?
Il fait la même opération mathématique sur les emails de ses propres utilisateurs connectés.
Ah, malin!
S'il trouve une correspondance entre les deux suites de chiffres, il sait que c'est le même acheteur. Il reconstitue le lien d'attribution sans aucun cookie.
C'est puissant!
Et selon des chiffres croisés de Google et de SR Analytics, cette combinaison de techniques, ça permet de récupérer plus de 70% des conversions qui étaient invisibles avant.
70%, c'est un sauvetage monumental. D'ailleurs, si on superpose des outils d'analyse multi-touch comme Triple Whale par-dessus cette infrastructure propre,
on commence enfin à voir le vrai parcours de l'acheteur, du premier clic au 10e jour.
C'est une belle ingénierie, c'est sûr. Mais la vraie question derrière tout ça, c'est l'impact financier.
Ouais, qu'est-ce que ça change concrètement pour les finances de l'entreprise?
Je vais te donner des chiffres issus de nos propres audits. Sur les 6 dernières migrations d'architecture qu'on a supervisées, on a constaté une récupération moyenne de 35% des conversions traquées.
C'est énorme.
Et il faut être clair, hein, le site ne vend pas magiquement 35% de produits en plus du jour au lendemain.
Non, bien sûr, les ventes étaient déjà là, dans la réalité.
C'est juste qu'on a enfin allumé la lumière et qu'on les voit apparaître dans les tableaux de bord.
Et pour l'algorithme publicitaire, cette lumière, ça change tout.
J'ai en tête un cas très bien documenté par Stape sur une marque de skincare.
Ah oui, je vois lequel.
Ils sont passés de 1724 à 4512 achats traqués juste en changeant d'architecture technique.
Le volume d'informations a fait un bond spectaculaire.
Et le résultat métier derrière, c'est que leur coût d'acquisition client a chuté de près de 40%.
C'est la mécanique pure des algorithmes d'enchères, ça.
C'est ça.
Ces intelligences ne fonctionnent qu'à la donnée. Moins on leur donne d'informations sur qui achète, plus elles dépensent le budget un peu au hasard pour essayer de trouver des profils similaires.
Et à l'inverse, plus on les nourrit avec des profils précis, plus elles ciblent juste.
Et donc, moins la conversion coûte cher.
Sur l'écosystème Meta, ça se mesure même avec un indicateur très précis, non ?
Ouais, l'Event Match Quality, l'IMQ.
C'est quoi exactement ?
C'est une note sur 10 qui évalue la qualité des signaux envoyés. Dans une configuration classique, bridée par les bloqueurs, on plafonne souvent entre 0 et 5.
C'est médiocre.
Très, mais quand on passe sur une architecture serveur bien configurée, avec des données hachées, on remonte systématiquement au-dessus de 9.
Et pourquoi ce fameux seuil est si important ?
C'est une règle métier fondamentale. En dessous de 8 sur 10, l'algorithme de Meta navigue dans le brouillard. Il gaspille une grosse partie de l'investissement publicitaire.
Donc atteindre 9, c'est vraiment la condition technique pour que la machine puisse optimiser la rentabilité.
Exactement.
Donc ça sauve la rentabilité publicitaire. Mais on oublie souvent un autre bénéfice technique direct, l'impact sur la vitesse du site.
Et par ricochet sur le SEO.
Ouais. Décharger le navigateur, ça a forcément un impact massif sur le temps de chargement. La mécanique est simple à comprendre en fait.
Vas-y, explique.
Un Tracking classique, c'est le navigateur du visiteur qui doit télécharger et exécuter des dizaines de scripts JavaScript.
Le script Facebook, le script Google, TikTok.
Tout ça met le processeur du téléphone du visiteur à genoux. En déplaçant ce travail sur notre serveur, on allège la page web.
C'est logique.
Des mesures de Semetis Testap montrent des baisses de l'ordre de 60% sur le temps de blocage de la page.
Ah, le fameux Total Blocking Time. C'est le temps pendant lequel l'utilisateur essaye de cliquer sur un bouton ou de scroller.
Et le téléphone ne répond pas parce qu'il est occupé à charger des trackers.
C'est l'enfer pour l'expérience utilisateur.
Rendre un site 60% plus réactif, simplement en nettoyant son système de mesure, c'est envoyer un signal incroyablement fort au moteur de recherche.
Les Core Web Vitals s'améliorent direct et le positionnement SEO naturel en profite.
La boucle est bouclée, quoi. On améliore l'acquisition payante et organique en même temps.
C'est ça. Mais il y a un dommage collatéral à une mauvaise mesure dont on parle presque jamais et qui détruit silencieusement le chiffre d'affaires des gros catalogues.
Ah oui, Skibay. C'est quoi ?
C'est l'impact sur le flux produit Google Merchant Center.
Comment ça se traduit concrètement ?
Prenons un produit spécifique. Par exemple, un accessoire premium, souvent acheté par des utilisateurs d'iPhone.
Ok, donc très impacté par le blocage d'Apple à 7 jours.
Exactement, ce produit se vend super bien dans la réalité. Mais parce qu'il est mal mesuré, Google enregistre très peu de conversions face à lui.
Et donc l'algorithme se dit que c'est un mauvais produit ?
C'est exactement ça. Il le dégrade dans les résultats de Google Shopping.
Aïe.
L'entreprise va donc voir les ventes de son meilleur produit s'effondrer sans comprendre pourquoi.
Et elle va potentiellement concentrer son budget sur d'autres produits qui ont l'air rentables dans les rapports.
Mmh. Mais qui génèrent en réalité beaucoup moins de marge. C'est l'assortiment entier du catalogue qui est faussé.
Ce qui nous ramène à la base de notre métier pour le coup. Toute cette ingénierie, c'est fascinant. Mais on ne peut pas l'envisager sans un audit SEO complet du site au préalable.
Non, c'est clair. Le tracking même parfait, ça reste qu'un thermomètre.
Un thermomètre très précis, certes, mais qui guérit pas la maladie.
Voilà. Déployer une architecture serveur ultra moderne sur un site dont le maillage interne empêche de trouver les produits.
Ou dont le tunnel de commande génère de l'anxiété chez l'acheteur. Ça sert à rien.
On va simplement mesurer avec une précision chirurgicale un taux d'abandon de panier catastrophique.
C'est ça. Il faut d'abord que les fondations techniques, l'architecture et l'expérience utilisateur soient irréprochables.
Le diagnostic global d'abord, la chirurgie technique ensuite.
Mais cela dit, pour les sites qui tiennent la route, on n'est plus du tout dans le domaine de l'option, là.
Ah non. La date limite du consenting mode V2 est largement derrière nous.
Le statu quo actuel, chaque jour qui passe avec une ancienne configuration, c'est pas juste un problème de lecture dans un rapport.
Ce sont des données propriétaires qui brûlent, purement et simplement. Et des budgets d'acquisition qui alimentent des algorithmes tournant sur du bruit statistique.
On paye pour tourner à vide, quoi.
C'est le prix de l'inaction.
Ouais. Et je propose qu'on s'arrête sur une réflexion beaucoup plus large pour finir, parce que ça remet en perspective pas mal de croyances fondamentales.
Vas-y, je t'écoute.
Si on réalise aujourd'hui, avec le recul de nos audits, que 40% des données d'achat étaient invisibles ou fausses pendant toutes ces dernières années,
ouais.
Quelles autres certitudes absolues sur la rentabilité sont en fait de purs mirages statistiques ?
C'est vertigineux quand on y pense. Prenons la valeur à vie d'un client, la fameuse lifetime value.
Ouais.
Sur quoi elle se base ? Si la moitié des réachats d'un client fidèle n'ont jamais été associés à son profil initial, juste à cause d'un cookie purgé après 7 jours.
C'est fou. On a sous-évalué la loyauté de nos clients pendant des années, en fait.
Et nos fameux produits stars, ceux qui trônent tout en haut des rapports de vente.
Ouais, s'ils n'étaient en fait que les produits préférés de la fraction de l'audience la plus facile à cibler et à tracer.
C'est ça. Peut-être que les véritables piliers de la marge de l'entreprise sont achetés massivement par des utilisateurs invisibles sous les radars.
Tout ce qu'on croyait savoir de notre propre modèle économique est potentiellement à réécrire.